Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
On n'en parle pas assez du fait que c'est difficile et qu'il faut apprendre à s'écouter dans ces moments-là parce que bah, on a quand même voilà, notre intégrité mentale qui est mise en jeu si ça se passe mal. Et on nous apprend tellement que tout doit être génial qu'on s'auto-convainc de ça. Et le temps d'accepter son état si on n'est pas bien, et bah, c'est compliqué. Quoi.
Quand on vient pour faire Erasmus, ça fait s'accrocher. Hein. Tu vas pas beaucoup dormir, tu vas voir.
Ils disent souvent que cette année a changé leur vie.
Ah, tu vas voir, c'est une vie de fou furieux.
Partir à l'étranger pour se libérer, pour quitter sa routine, pour se mettre en difficulté.
T'as entendu parler des Barres des Copas ?
Est-ce qu'on apprend vraiment plus sur soi, sur les autres, sur le monde en Erasmus ?
Do you have a prise for the portable ?
I'm sorry ?
Un adaptateur, you know ?
Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
Ok, bienvenue chez les psychopathes.
Après, bien après, quand on est revenu à Paris, toute galère est devenue une aventure extraordinaire. Il y a toujours ce truc idiot où les jours les pires d'un voyage, les expériences les plus ratées, sont celles qu'on raconte le plus après aux autres.
Avant de commencer, un avertissement. Dans cet épisode, on va parler de troubles du comportement alimentaire. N'hésitez donc pas à faire des pauses ou à écouter tout ça au calme, seul ou accompagné, comme vous préférez. Bonne écoute!
Je m'appelle Céleste, j'ai 24 ans, donc j'ai fait mes études à Sciences Po Lille et il y a une année à l'étranger obligatoire en troisième année. Et donc en deuxième année vient le choix de la destination et j'ai choisi de partir en Corée du Sud parce que j'avais vraiment envie de partir loin à l'étranger, j'avais déjà eu une expérience de 6 mois en Allemagne. Et j'ai choisi la Corée pour son côté central en Asie, contrairement à plein d'autres gens que j'ai rencontrés là-bas qui pouvaient être passionnés de K-pop, de drama coréen, etc. Moi, c'était vraiment des choses que j'en avais jamais entendu parler. Quand ça se décide, on est fin 2019, début 2020, donc avant la crise Covid. On se demande si on va partir, si les frontières vont rouvrir, si... Et petit à petit, on voit les destinations de tout le monde qui s'annulent. Au final, il a été décidé qu'on pouvait partir en Corée, à condition de faire une quarantaine très très stricte de 15 jours. Une fois qu'on est arrivé là-bas, donc on a dû décaler le billet pour partir plus tôt, pour être là pour le début des cours, etc. Au-delà du fait que ce soit à l'autre bout du monde et que ce soit un départ pour un an, le contexte était quand même très particulier. Mais je me sentais vraiment très chanceuse de pouvoir partir en pleine crise Covid, alors que tous mes amis n'avaient pas cette chance. Donc c'était un peu un mélange de plein d'émotions, mais le positif prenait vraiment le dessus au moment du départ et j'avais juste hâte d'y être. Dans l'avion, j'étais très contente. Donc on arrive là-bas, j'étais partie avec une amie que je connaissais et donc on arrive en quarantaine dans un appartement avec deux autres personnes qu'on connaissait pas du tout. On arrive à l'aéroport, on a une application qui est installée de force sur notre téléphone, dans laquelle on doit rentrer 4 fois par jour notre température et qui nous envoie des menaces sur notre téléphone quand le téléphone n'a pas bougé pendant plus de 2 heures parce qu'ils ont peur qu'on l'ait laissé pour partir dehors. Avec du recul, ça aurait pu être difficile à vivre, mais ça ne l'était pas forcément parce qu'il y avait vraiment ce côté inédit. On venait d'arriver, on était un peu perdus parce qu'il y avait le décalage horaire, donc on vivait à des heures françaises parce qu'on était enfermés dans un appartement. On savait que dehors, c'était Séoul et en fait, on ne voyait rien, donc c'était très particulier. Ça m'a stressée, mais c'était pas du tout la partie la plus compliquée. Tous les cours étaient en Zoom, donc en distanciel. Donc on n'avait pas ce côté-là je vais en cours, je rencontre des nouvelles personnes. Fallait un peu forcer les rencontres. Et ce qui fait qu'en fait, très vite, on s'est un peu conforté dans un cercle francophone avec des Belges et des Français. Donc au début, c'est pas quelque chose qui était pesant, mais du distanciel sur 10 mois, avec du recul, je pense que ça a vraiment... empêcher de vivre une expérience un peu plus positive. Donc je suis arrivée en août, vers le mois de décembre, ça a commencé à être compliqué. Donc parce que j'étais arrivée en Corée avec une amie que je connaissais d'avant, qui a dû partir plus tôt que prévu, donc mi-octobre, il me semble. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis confortée dans les amitiés que je m'étais faites en 2 mois, mais je n'ai pas cherché à en faire des nouvelles. Et en fait, la plupart des gens sont là pour 1 semestre. Donc, les cours finis fin décembre, il y a beaucoup de gens qui partaient. Et il fallait refaire l'effort de nouer les nouveaux liens pour le 2e semestre. Et c'est là, je pense, où ça a été compliqué. Et en plus de ça, l'hiver en Corée est assez rude, c'est très froid. Et normalement, c'est une période où on voyage et où on va au soleil, où on découvre plein de choses. C'est des choses qu'on n'a pas pu faire parce que Covid, que bloqué en Corée pendant 3 mois de vacances scolaires de décembre à mars. Tout fermé à 22h, c'est une ville qui vit beaucoup la nuit normalement. Donc tout ouvrait à 11h midi, tout fermé à 21h, 22h. Et c'était un rythme qui était pas très propice aux rencontres et aux sorties. Moi, j'ai pas eu beaucoup de chance parce que je me suis fait une énorme entorse début janvier, qui m'a immobilisée dans mon appartement en plus de pas pouvoir beaucoup bouger de base. Donc il y a eu ça tout le mois de janvier et c'est au mois de février que mes nouveaux colocataires sont arrivés. Il faut mettre en place des nouvelles règles, il faut apprendre à cohabiter avec des nouvelles personnes. Et je pense que c'est un effort à ce moment-là que j'étais pas capable de faire. Et donc je me suis vraiment isolée dans ma chambre. Et je parlais avec les gens, mais j'avais pas envie de faire d'efforts. Le moindre truc pouvait m'énerver. Enfin, en fait, ça s'était tellement bien passé pendant 6 mois que pour moi, c'était un peu une fatalité que ça allait mal se passer. À la fois, j'avais pas l'envie ni même la force de rencontrer de nouvelles personnes, de m'adapter à un nouveau mode de vie, donc c'est plutôt l'isolement qui a pris le dessus à ce moment-là. Au début, j'en parle pas trop, je cache pas trop le fait que je le vis pas bien. Bah, moi, j'ai eu de la chance de partir, donc je dois profiter, parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas pu. J'ai la chance de découvrir un pays dans cette période où on découvrait quand même pas grand-chose de nouveau. Voilà, il y avait vraiment ce côté, c'est très difficile et je le vis très mal. Mais je dois pas le dire, je dois pas le montrer parce que j'ai trop de chance d'être ici. Mais je pense que même moi, je me rends pas compte de ce que je suis en train de m'infliger. Les gens savent que ça commence à être compliqué. Enfin, les gens de France, en fait, à qui je parle, je dis franchement, c'est pas la joie, mais ça va le faire et j'ai trop de chance d'être ici. En fait, je suis tout le temps dans la nuance de oui, ça va pas, mais j'ai conscience que j'ai trop de chance, j'ai conscience que je dois profiter, j'ai conscience que ça n'arrivera qu'une fois. Et avec mes amis en Corée, c'est pareil, c'est un peu un sujet où c'est tabou parce que je me dis qu'en fait, on est tous dans la même situation, qu'eux aussi, ils sont loin de chez eux, eux aussi, ils ont peut-être envie de retourner en France et qu'en fait, je suis pas forcément légitime de me plaindre et de mettre des mots sur la solitude que je ressens et qui grandit un peu petit à petit. Donc ça reste un sujet tabou. Alors, c'est venu petit à petit. En fait, ça s'est surtout déclaré dans des troubles du comportement alimentaire qui ont pris une place de plus en plus importante et où je me suis rendu compte que c'était juste très anormal et très peu vivable. J'ai toujours eu des petits soucis avec l'alimentation. Mais là, c'était vraiment devenu permanent. Je remplaçais mes repas par du coca. Il y a des magasins qui sont ouverts toute la nuit. À 4h du matin, j'allais m'acheter des trucs à manger. Et je me goinfrais, ou alors je mangeais rien, ou alors... c'était vraiment devenu... j'avais tellement l'impression de rien contrôler que c'était devenu ma source de contrôle. Mais je n'avais aucune énergie dans mon corps et je ne mangeais plus rien, quoi. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être moyen que ça s'aggrave si je reste... Là, on était... Bon, en vrai, c'est en mars que ça s'est déclaré vraiment fort. Et je me suis dit, si je reste jusqu'en juin, ça va peut-être être un problème. Mais pareil, je voulais rester. Je voulais pas que mes parents soient au courant de tout ça. J'en parlais à quelques amis, mais ça restait encore un gros secret, quoi. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas capable de partir et de tenir toute seule. Et il y avait ce côté, j'ai de la chance d'avoir des parents qui ont accepté de m'aider dans ce projet de voyage. Je peux pas, en fait, je peux pas rentrer et juste tout lâcher. Personne comprendrait, les gens qui n'ont pas pu partir ne comprendraient pas. Mes parents, ce serait leur avouer que, ils avaient peut-être raison dans tous les avertissements qu'ils avaient pu me dire comme des parents avant que je parte. Tu sais, c'est loin, il y a le décalage horaire, il y a le Covid et tout. Donc, c'était vraiment pas une question qui me venait à l'esprit, c'était juste, je vais prendre sur moi et je vais rester. jusqu'au bout. Jusqu'à ce que, en fait, je croise un ami que je m'étais fait en Corée, qui vient de France, et je l'ai croisé un jour, j'étais effondrée dans la rue. Et je l'ai croisé par hasard, il m'a dit « bon, on va aller discuter ». Et ça, c'était au mois d'avril, je pense. Et il m'a dit « mais honnêtement, pourquoi tu restes ? Qu'est-ce que t'as à te prouver en restant ici ?» Il m'a fait faire un tableau des pour et des contre, pourquoi rester, pourquoi partir. Et là, ça a été un peu le déclic où je me suis dit « ouais, bon, enfin, ça fait 8 mois que je suis ici, j'ai prouvé en fait que je pouvais être ici, rester à l'étranger. Je suis malheureuse, ce qui peut arriver, mais je suis seule et en fait, je sais pas vers qui me tourner. Et c'est à ce moment-là où la petite graine, elle s'est plantée de « bon, je pourrais peut-être rentrer ». Ouais, je pense que ça me soulage quand même plutôt pas mal. Mais il y a toujours ce côté, ok, comment je le dis, comment je présente la chose, comment je justifie le fait que je rentre plus tôt alors qu'officiellement, je vis ma meilleure vie en ce moment, que j'ai mis des stories Instagram vraiment superbes. Donc je me suis occupée un peu du côté logistique, envoyer des mails à mes profs. Et voilà, et en disant, mentalement parlant, ça commence à devenir un peu compliqué. Et mes profs ont accepté que je finisse mes cours en distanciel en France. Je pars de Corée toute fin avril, le 30 avril je crois. Donc en fait, au lieu de mi-juin, fin juin, donc un mois et demi avant la fin, c'était aussi une des raisons pour lesquelles je voulais même plus rentrer. J'étais en mode, bah, un mois et demi près. Et on m'a dit à très juste titre, un mois et demi c'est rien si ça va, c'est énorme si ça va pas. Et voilà, c'est à ce moment-là que le choix est fait de rentrer. Alors le retour, très en dents de scie, parce qu'au début, vraiment trop contente, je revois tout le monde, ça fait trop plaisir, ça fait quand même... J'étais quand même partie pendant 9 mois au final, donc c'est quand même assez long. Les premiers jours, c'est vraiment top, je me pose pas trop de questions, et après je commence à prendre les cours la nuit. Sauf qu'en fait, je me retrouve à vivre totalement décalée, à me réveiller à 3h du matin pour faire des cours de 3h à 10h du matin en me couchant à 23h, 22h. Après, j'avais rien à faire de ma journée, mes parents travaillaient, mon petit frère était à l'école. Enfin, j'étais seule en fait en France. Et le soir, il revenait et le soir, j'étais trop heureuse d'être rentrée. Enfin, j'avais l'impression de rejouer un personnage en fait tous les soirs. Alors que les journées, j'étais... J'étais perdue, quoi. Les troubles du comportement alimentaire étaient toujours très présents et se sont même empirés. Enfin, c'était vraiment, encore une fois, la seule chose sur laquelle je pense que j'avais le contrôle et que je faisais pas un repas normalement, quoi. C'était soit je mangeais pas, soit je mangeais et je me faisais vomir après. C'était vraiment devenu constamment ça. Et alors même que pour moi, la solution, c'était la France. J'étais pas bien en Corée et je pensais que la solution c'était juste de changer d'endroit et de rentrer en France. Je me prenais pas forcément la tête sur bon, faudra quand même prendre le temps de regarder ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, les traces que ça peut laisser. C'était vraiment bon, en Corée ça n'allait pas, en France ça ira mieux. Enfin, ma vie n'avait plus aucun sens quoi. Elle était plus cadrée, c'était un isolement différent, mais en fait. Je ne m'attendais pas du tout au fait que les problèmes que j'avais en Corée puissent être encore présents quand j'étais rentrée. En fait, comment j'accepte d'être toujours aussi mal alors que je suis rentrée ? Comment je le dis aux gens qui te disent « trop contente pour toi que tu sois rentrée, ça doit aller vachement mieux ?» En fait, non, toujours pas. Mais comment est-ce qu'on dit ça ? On ne sait pas, parce que même nous, on ne comprend pas trop ce qui se passe, on ne sait pas trop comment s'en sortir. Et là, on rentre dans une spirale pendant 2 mois, toutes mes journées se ressemblaient, quoi. Et voilà, jusqu'au moment où je me suis dit, je vais peut-être aller voir le médecin, quand même. Puis voilà, le médecin qui m'a redirigée vers une psychologue, et là j'ai commencé un suivi, mais ça a quand même pris du temps, quoi. J'y repense encore, je pense qu'il y a eu vraiment une longue période où j'avais besoin de ne pas y penser. Et il y a tout ce côté aussi où quand on rentre, donc tout le monde sait que toi t'es partie, te demande comment ça s'est passé. Et à chaque fois, c'était un sujet que je balayais assez vite, en mode ça s'est très bien passé, j'ai vu des choses trop belles et c'était pas un mensonge. Et encore maintenant, j'ai aucun regret d'avoir été en Corée. Le seul regret que j'ai peut-être, c'est d'avoir un peu trop tiré sur la corde et de pas avoir accepté que, en fait, au bout d'un semestre, j'aurais très bien pu rentrer et c'était pas grave et ça faisait pas de moi quelqu'un de faible. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à accepter de me rendre compte de l'impact que ça avait pu avoir sur ma santé mentale encore aujourd'hui, sur... bah, le fait que je pense tomber aussi fort dans des troubles de comportement alimentaire, et ben en fait ça laisse toujours des traces maintenant, parce que je pense que c'est quelque chose qui part jamais vraiment. Et donc ça me ramène toujours à la Corée, et où en fait je compare toujours à comment j'étais en Corée. Si jamais en ce moment il y a des moments où je suis pas très bien, j'étais en mode bah oui je vais pas bien, ma santé mentale elle est pas ouf à tel moment, mais en Corée c'était pire. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais rentrée, je me prenais en photo quand je pleurais, et j'avais fait un album sur mon téléphone en me disant bah en fait les fois d'après où tu pleureras, tu regarderas ces photos là et tu te rappelleras à quel point là t'étais mal, pour relativiser les moments d'après quoi. T'as été très triste et très seule, et en fait maintenant tu peux toujours être très triste, mais tu seras jamais aussi seule qu'à ce moment-là. Et ouais, je pense que ça c'est une pensée que j'ai souvent, et je dirais que c'est le plus gros reste que j'ai de cette période-là, c'est de me forcer à me dire que bah au moins je suis entourée. Je pense qu'on pourrait être plus sensibilisé au fait que tout se passe pas toujours bien, parce que pour le coup moi c'est quelque chose qu'on m'avait pas dit. Enfin, moi, je vois toutes les réunions qu'on avait avant de partir à l'étranger. C'était dans tel pays, il y a tel problème de sécurité. Dans tel pays, la barrière de la langue, enfin, le choc culturel, etc. Enfin, moi, je suis quand même partie dans un pays où la culture est très différente. J'ai vraiment pas ressenti ce truc de choc culturel. C'était pas du tout ça le plus dur. Parce que je pense que justement, les personnes qui parlent de leur année à l'étranger sont celles qui l'ont très bien vécu. Donc, on n'entend que ça. Et souvent, les gens qui vivent très bien leur voyage à l'étranger, ça va être bah, j'ai rencontré trop de gens, je suis sortie super souvent, j'ai rencontré l'amour, j'ai machin. Et c'est souvent autour des rencontres et on se dit qu'on va forcément rencontrer des gens. Mais en fait, on peut très bien avoir un contexte qui fait que bah, c'est pas propice aux rencontres. Et dans ce cas-là, bah, on est seul et on le choisit pas. Et en fait, on doit subir le fait d'être seul. Et c'est quelque chose qu'on nous dit pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément appris, qu'on s'est pas forcément forcé à faire. Dans un contexte plus favorable dans notre petit cocon chez nous. Et oui, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire si on ne s'y est pas penché avant, quoi. Et moi, quand j'étais rentrée, à chaque fois que je parlais à des personnes qui allaient partir, je leur disais, mais enfin, faites attention. On n'en parle pas assez du fait que c'est difficile et qu'il faut apprendre à s'écouter dans ces moments-là, parce que bah, on a quand même voilà, notre intégrité mentale qui est mise en jeu si ça se passe mal. Et on nous apprend tellement que tout doit être génial qu'on s'auto-convainc de ça, et le temps d'accepter son état si on n'est pas bien, et bah c'est compliqué quoi. Ça m'a appris que déjà on n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit, et que si on ressentait le besoin de se prouver des choses à soi, et bah c'était déjà très bien. Par exemple, moi ce voyage, je pense qu'au bout de 3 mois je m'étais prouvé que j'avais fait le tour. Surtout ne pas se sentir en échec quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Parce qu'il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte dans ce genre d'expérience que bah, il y a des choses qui sont sous notre contrôle, il y a des choses qui ne sont pas sous notre contrôle. Le fait que ce ne soit pas ce qu'on avait rêvé, bah, ce n'est pas un échec, quoi. C'est juste une tentative qui n'a pas fonctionné, mais il y en aura d'autres qui fonctionneront. Et là, 2-3 ans après, mon envie principale, c'est celle-là, en fait, c'est de repartir pour me prouver qu'il y avait tout un contexte autour et de me dire je peux partir à l'étranger et être super épanouie à l'étranger. Bon, on va essayer, hein. On verra bien. Puis si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.